l'occasion du festival Terre d'ailleurs qui a lieu en ce moment même en terre figeacoise et de Decazevilloise, du 20 au 25 septembre, des aventuriers, explorateurs sont présents et viennent discuter avec le public à la suite de la projection des films et documentaires. C'est ainsi que le jeudi 23 à l'Astrolabe de Figeac et le vendredi 24 à la Strada à Decazeville sera diffusé un magnifique documentaire scientifique Ultima Patagonia. Et après cette diffusion, alors pas moins de, alors on va dire deux ou trois spéléologues lotois seront présents. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que pas moins de trois lotois, voire même quatre lotois, participent à cette extraordinaire aventure d'Ultima Patagonia. Donc nous avons Alex et Christine Andrieux, Florian Chenu, et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de rencontrer dans nos studios figeacois Joël Trémoulet, membre de Centre Terre, spéléologue et hydrogéologue, qui travaille d'ailleurs à deux pas de nos studios et qui va donc partir et même repartir en Patagonie début 2022. Bonjour Joël.
Bonjour.
Alors, on va parler d'abord de Centre Terre, hein, une association. C'est quoi ? C'est une association finalement, Centre Terre ?
C'est une association qui regroupe un certain nombre de personnes, au départ qui a été créée dans la fin des années 70 pour porter des expéditions scientifiques, spéléologiques en Papouasie, vraiment au fin fond du monde, avec des spélos de renom qui sont très connus dans le milieu spéléo, scientifiques, entre autres, par exemple, Richard Mer, qui est professeur au CNRS de Bordeaux en géographie physique, et aussi des gens comme M. Pernet qui ont tout jeune battu le record du monde profondeur dans les Pyrénées, donc pas mal de gens très connus, et qui ont créé ce groupe et qui, par hasard, en particulier Richard Mer, avait repéré des calcaires les plus au sud de la planète, au fin fond de la Patagonie, côté chilien, c'est-à-dire côté pacifique. Et Centre Terre a mené des expéditions depuis 1994, donc il y a eu 8 expéditions, et donc effectivement une 9e qui se profile pour le mois de janvier-février prochain.
Donc Ultima Patagonia, elle va être diffusée jeudi et vendredi. Donc c'est un film documentaire qui raconte, on va dire, une expédition organisée par Centre Terre. C'est ça ? C'est bien résumé ?
Tout à fait. Voilà, c'est sûr. Donc il y a dans ces archipels, en fait, il faut imaginer que la Patagonie chilienne, on a différentes images de la Patagonie. Là, on est sur le versant ouest. Donc c'est la partie qui prend vraiment beaucoup d'eau. C'est les coins les plus arrosés de la planète. 12 mètres d'eau par an, hein, donc pour donner un ordre d'idée, il tombe chaque mois ce qui tombe à un an sur le Figeacois et le Ségala lotois. Donc des conditions assez extrêmes. Et un chapelet d'îles, en fait. Hein, donc on a l'impression que c'est une terre, mais voilà, Magellan est le premier à être passé dans ce secteur-là, avec une empreinte voilà, de la forêt primaire, des endroits assez inaccessibles, donc un passé historique. Des dernières terres qui ont été colonisées par les êtres humains. Voilà, donc un endroit à la fois mythique dans l'imaginaire, et même quand on y est, c'est des endroits vraiment très exceptionnels, quoi.
Mmh. Alors, donc dans le film Ultima Patagonia, on voit une île, l'île de Madre de Dios. Donc c'est là où vous vous rendez ?
C'est là où on se rend, donc que certains avaient surnommé l'île au glacier de marbre, parce que les premiers bateaux qui passaient, ils voyaient... Ils pensaient que c'était des glaciers, et en fait, non, ce sont des calcaires, donc des calcaires qui ont, sur des zones tectoniques particulières, là on est au bout de la plaque géologique d'Amérique du Sud, et l'Antarctique est pas très loin, en fait, et l'océan Pacifique tout proche, et tout ça, ça se percute, et ça fait des grosses pressions, et ces calcaires sont transformés en marbre, le marbre c'est ça, c'est un calcaire qui était comprimé, et donc ils sont, quand il pleut pas, ils sont blancs. Et bon, c'est vrai qu'il pleut souvent, il change de teinte, mais voilà, ces zones, voilà, ils apparaissent parce qu'il n'y a pas de végétation qui arrive à pousser dessus. C'est des conditions météo assez extrêmes pour les hommes, mais aussi pour la végétation. Et donc, dès qu'on a des calcaires, des marbres, qu'on a de l'eau, et bien, voilà, c'est la spécificité de ces calcaires. On peut avoir des cavités, des grottes. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on va sur Madre de Dios, parce qu'on a une superficie assez grande, avec à la fois en surface et en souterrain des choses qui sont extraordinaires, qui sont vierges. Donc on a encore les rares terres qui sont non explorées sur la Terre. On les trouve dans ce type de lieux assez inaccessibles.
Alors, quels sont les scientifiques qui partent là-bas, donc des spéléos?
Alors, c'est un peu ce qui nous relie. Donc, au départ, c'est quand même des spéléos. Voilà, certains, de par la spéléo, ça a un petit peu modifié leurs études, ou c'est l'inverse. D'autres qui, par leur formation, sont venus sur la spéléologie. Donc, on a, voilà, qu'on verra dans ce film, je pense à Richard Maire, qui est quand même un grand monsieur de du karst. Le karst, c'est tout ce qui est l'étude de ces zones où on peut avoir des cavités, qui a fait une thèse d'état dans les années 90. Il y a aussi Stéphane Jaillet, qui lui est au laboratoire de Chambéry, laboratoire Editem, qui est un laboratoire de référence parce qu'il étudie tout ce qui touche le karst, mais sur les approches, on va dire, hydrauliques, mais aussi sociologiques, et ainsi de suite. Donc c'est un laboratoire qui est quand même très, très intéressant, et c'est un peu les deux grands piliers, et puis dessus se greffent d'autres personnes, d'autres scientifiques, donc des géologues, mais aussi des archéologues. Je pense à M. Lamotte qui est à l'INRAP, et puis on a aussi des partenariats avec différentes universités. Donc là, on a Mlle Lonia qui a fait sa thèse en Suisse, là, qui est aussi une jeune karstologue, fille de spéléologue, spéléologue aussi. Voilà, donc on verra son père sur le film qui va être projeté, mais elle aussi était présente. Voilà, ça se greffe. On a voilà aussi des Chiliens qui sont présents, donc c'est assez hétéroclite. Mais c'est vrai que le fait d'être spéléo, voilà, nous unit, on va dire, dans les esprits. Et même si ce type d'expédition, c'est vraiment les expéditions qu'on peut comme les expéditions des géographes d'autrefois, en fait, où l'idée, c'est un peu de capitaliser la donnée sur tous les sujets. Donc, voilà, qu'il soit la karstologie, donc il y a des spéléos, il y a des plongeurs spéléos. On va regarder aussi les cavités où on a potentiellement de l'archéologie, puisqu'on a les peuples amérindiens qui, eux, vivaient dans ces coins-là. Donc, c'est intéressant de comprendre comment ils arrivaient à vivre, quelles étaient leur façon de faire, et c'est aussi important pour voilà, leurs descendants aussi de se réapproprier ce patrimoine qui a été un peu quand même assez effacé par les conquistadors. Voilà, donc pas mal de choses. Oui. Mmh.
Donc vous découvrez des choses, vous faites une cartographie de l'île, en fait, aussi.
Alors on fait la cartographie, oui. on fait l'inventaire un peu de tout, les espèces animales, les espèces végétales, même la microfaune, voilà, en particulier souterraine, parce que nous, ça nous intéresse beaucoup. Et l'idée derrière, et dont la démarche, elle est lancée, donc on est déjà sur une zone qui maintenant est à une certaine protection, puisqu'on est en relation avec les ministères du Chili, et il y a une démarche qui est bien avancée aujourd'hui de classement UNESCO, en fait, patrimoine mondial, pour l'ensemble, en fait, de tout ça, quoi, en termes minéralogiques, en termes biologiques, en termes archéologiques. Donc tout ça, voilà, on est sur des marbres, donc il y a toujours l'idée aussi, c'est que ce joyau de la planète ne soit pas une carrière de marbre utilisée. Voilà, donc il y a aussi cette idée de protection. Et c'est aussi le leitmotiv de Centre-Terre, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir de l'exploration, mais aussi, voilà, on explore pas juste pour le plaisir d'explorer, mais c'est aussi capitaliser la donnée, c'est comprendre, et c'est aussi partager. Voilà, donc c'est derrière, voilà, c'est l'objet aussi du film, hein, c'est de pouvoir, au travers du film, c'est vrai que Il y a des ouvrages qui ont été sortis, on fait des rapports d'expédition à chaque fois. Donc il y a un ouvrage photographique là, qui va être publié prochainement. Il est sous presse, c'est vrai que le contexte Covid a un peu ralenti certaines choses, mais il va sortir pour le congrès international de spéléologie qui se tient justement à Chambéry en 2022. Et c'est vrai que dans les films, on voit l'ambiance, voilà. C'est-à-dire que les éléments, le vent, cette puissance du vent, la météo qui change tout le temps. Voilà, moi j'ai eu la chance de faire expédition 2014-2017. En 2014, on a pris 150 mm le premier jour. Voilà, c'est une fois et demie l'orage qui est tombé là, très violent, la semaine dernière. Donc c'est voilà, on en prend plein les yeux tout le temps. Il y a beaucoup beaucoup de choses, mais c'est vrai, venez voir le film, ça permet d'être dans l'ambiance.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, qui a réalisé le film ?
Le réalisateur, alors c'est vrai que lorsqu'on est embringué dans ce genre d'aventure, on s'appelle plutôt par les prénoms que par nos noms. Non, je ne peux pas écorcher son nom. Donc c'est Gilles qui est cinéaste. Donc il vient réalisateur. Il vient accompagné de quelqu'un qui fait de l'image, un preneur de son. Donc c'est vraiment des professionnels. Donc Gilles a fait pas mal de films pour Thalassa et pour Ushuaïa. C'est un amoureux de la mer. Et il connaît aussi, voilà, ce qu'il aime, c'est un peu ses aventures extrêmes. Et c'est quelqu'un, au-delà d'être très intéressant, avec une lourde expérience, qui est très attentionné, qui sait se faire oublier. Et donc, qui arrive à percevoir, voilà, il est là tout le temps, ce qui fait qu'on l'oublie. Et donc, on est vraiment, le film restitue vraiment, on est dans le jus, là, vraiment dans l'essentiel. Ouais. Et voilà, donc il reviendra d'ailleurs en 2022, il va revenir. Donc, l'année 2022, il vient avec un projet pour un film, donc pour Arte, ouais.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai vu Ultima Patagonia sur Arte, hein, qui est passé il y a quelques mois, que j'ai trouvé extraordinaire. Et je me suis posé la question, je me suis dit, alors certes, c'est une mission scientifique à la base, on est d'accord, mais c'est quand même une aventure, non ?
Alors, c'est une aventure à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est un peu particulier, parce que c'est déjà une aventure personnelle. C'est un gros investissement. C'est un investissement pour soi, mais aussi, bien sûr, pour l'entourage. L'expédition, c'est 2 mois. On ne peut pas partir là sur une durée courte. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir y être allé, mais j'y suis allé, entre guillemets, qu'un mois. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, il y a une équipe qui reste 2 mois et une autre équipe qui vient un mois et qui se fait relier par une autre équipe, ce qui permet d'avoir en fait une trentaine de personnes en tout, avec 20 personnes en permanent. Donc c'est une expérience parce qu'on croise des gens d'horizons très divers. C'est un projet qui se prépare vraiment sur du long terme. Il faut ménager aucun détail. Donc voilà, donc j'évoquais tout à l'heure les relations avec l'ambassade. Non, c'est plutôt Bernard Tourte, qu'on appelle Buldo, qui est aussi par ailleurs responsable du spéléo secours français. Donc c'est aussi une pointure spéléo qui a rédigé avec Jo Marbach, qui aussi fait partie des Centres Terre, qui est aussi un des grands spéléos français, un ouvrage technique de la spéléologie alpine, qui est vraiment l'ouvrage de technique de référence de la spéléo. Voilà, donc, et après, on a aussi des gens qui sont charpentiers, des gens qui sont électriciens. Il faut, il y a des plongeurs. Et puis après, sur place, il n'y a pas de... on va dire qu'il y a un nivellement vers le haut, c'est-à-dire que tout le monde fait tout, il faut tout faire, quoi. Il faut toujours se débrouiller. C'est une expédition, donc on est seul loin du monde. Mmh. Et du coup, il naît des relations qui sont très fortes, en fait, voilà, qui perdurent. Alors, comment ça fonctionne, en fait? On fonctionne par petites équipes. Généralement, on arrive, il faut monter on monte un camp de base qui est notre havre de paix, le point chaud où quand on revient après 3, 4, 5 jours sur des camps avancés, voilà, on a besoin de se ressourcer. Et c'est là où... et après, donc, on envoie des équipes en différents points. Soit on part à pied, soit on part beaucoup avec des zodiacs parce que c'est plus facile de se déplacer en mer que dans ces roches qui sont souvent acérées ou la forêt primaire qui est difficile à traverser. Et ensuite, on revient. Quand on revient, eh bien, il faut faire les comptes rendus. Il faut nettoyer le matériel, préparer le matériel d'après et capitaliser. Aussi, on fait de la photo. On ramène aussi des images. Donc il faut faire tout ça. Donc forcément, il faut que tout le monde se relaie. Il y a une coordination. On planifie au fur et à mesure. Même si on a un rail à peu près, on sait un peu les zones qui sont... là, aujourd'hui, on va repartir sur la partie extrême nord de Madre de Dios qui reste vierge. Mais là, vous verrez sur le film une partie nord-ouest où on a trouvé quand même des cavités super intéressantes. Donc on avait repéré par photo aérienne, photo satellite, les zones potentielles, en fait, où on avait des grosses résurgences et les zones potentielles où on pouvait avoir des ruisseaux qui se perdent sous terre, donc potentiellement des rivières souterraines intéressantes. Et effectivement, après, on va les chercher sur place. Il y a la cuisine, mais il y a déjà monté le camp. Il y a réparé le groupe électrogène si tombe en panne. Il faut savoir tout faire. Ouais. Thank you.
Alors, vous êtes spéléologue, mais en fait, à la base, votre métier, c'est... Hein, c'est quoi ? C'est hydrogéologue, c'est ça ?
Voilà, je suis voilà, donc c'est... Comment dire ? Moi, je suis originaire de Gourdon, donc je suis un pur lotois. Des amis du lycée de Souillac. Voilà, donc je suis au spéléoclub de Souillac et maintenant aussi au spéléoclub de... Au Figeac spéléoclub, pardon. Mais non, par hasard, j'ai eu la chance de partir jeune en expédition amenée par mon président de l'époque, Pascal Métayer, en Turquie, donc en 89-90. Et donc c'est là où j'ai découvert le CARS et ça a orienté mes études et en croisant aussi dans les spéléos des hydrogéologues, donc l'étude des eaux souterraines, plutôt axé CARS, c'est ce qui a orienté mes études. Et voilà, et puis après je me suis retrouvé pendant une dizaine d'années au parc régional des Causses du Quercy comme hydrogéologue. Et les hasards de la vie fait que voilà pour passer un peu à autre chose. Maintenant, je suis plutôt sur les eaux de surface, mais voilà, donc je travaille toujours sur l'eau, un peu moins sur les eaux souterraines. Mmh. Mais l'hydrogéologie, c'est l'étude de l'eau souterraine. C'est assez vaste, hein, puisque tout se spécialise. Hein, mais voilà, donc on fait en particulier, on regarde la chimie des eaux, on fait des traçages qui permettent de regarder un point où est-ce que vont ressortir les eaux qui s'infiltrent et comment elles vont ressortir pour essayer de comprendre les mécanismes, est-ce qu'on a une protection naturelle ou pas. Donc là, on est sur des milieux inhabités, donc c'est encore autre chose, mais là c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'eau et on a, c'est les territoires de la planète, on a ce qu'on appelle la carstification, c'est la façon de creuser dans les calcaires qui sont les plus rapides de la planète. C'est assez fulgurant. On a des paysages de surface où on a de la dissolution avec des formes qui sont uniques. Donc voilà. Donc on parle hydrogéologie, mais on a ce qu'on appelle la karstologie finalement, parce que la karstologie c'est tout qui touche au karst. Il y a de l'hydrogéologie, il y a de la biologie, il y a de la mécanique, il y a de la sédimentologie. Il y a plein de sciences qui se croisent. Voilà. Donc là, on essaye un peu de chacun. Donc moi j'ai un peu suivi sur plutôt la partie eau souterraine, mais on a aussi étudié les fjords, comment essayer de comprendre ce qui s'est passé après dernière glaciation, puisqu'on avait des glaciers en fait qui ont raboté ces glaciers de marbre, des vrais glaciers qui ont amené des cailloux, et ensuite le glacier lorsqu'ils ont fondu, c'est comme il se passe actuellement sur le Groenland, on a le socle et on a toutes les roches qui remontent avec un décalage. Donc on a étudié ce genre de choses. Donc il y a plein de choses, des choses très techniques et des choses qui sont assez simples. Voilà, la beauté des paysages. Donc l'idée, c'est de partager un peu tout ça. Mmh. Et c'est dans ce cadre de partage. Donc là, on a des volets scientifiques, on va dire, purs et durs. Et voilà, donc assez, je veux dire... Qui vont assez loin. Et on a aussi donc un partenariat avec l'éducation nationale, puisqu'on est agréé éducation nationale. Donc on a des classes qui peuvent nous suivre, qui vont nous suivre. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des visios
en direct,
voilà. Ah oui. Voilà, des avoir en direct. Ils vont préparer, ils vont nous suivre, ils vont avoir un programme pédagogique pour préparer ces rencontres-là. Donc voilà, donc on est sur de la vulgarisation, en fait. Et l'idée, c'est aussi de donner aux jeunes, de les sensibiliser, puis de donner un peu envie à la fois à l'aventure, à la science. Donc c'est intéressant de se rendre compte, c'est des gens qui ont été à l'école, qui ont été petits, qui ont un peu rêvé, voilà, sur des carnets d'aventure ou autres, sur certaines émissions, sur des bouquins. Et puis là, ça se matérialise et aujourd'hui encore, on peut encore avoir des aventures de ce type, ça existe encore.
Peut-être de futurs spéléologues.
Voilà, de futurs spéléologues ou de futurs mathématiciens ou géophysiciens, peu importe. Voilà, des gens qui vont... voilà, en tout cas, l'idée, c'est plutôt de déguiser l'esprit à... voilà, la science, c'est pas que quelqu'un derrière un ordinateur. Voilà, il y a de l'ordinateur, il y en a beaucoup, mais c'est aussi... il y a plein de choses, en fait. Voilà, et dans la science, il y a aussi cet esprit un peu palpitant, là, que... Voilà, tout le monde a un peu cette fibre-là. Il y a une émulation qui est super intéressante sur ce type d'expédition.
Et vous pratiquez la spéléo plongée ?
Non.
Non, alors, c'est juste une question.
Voilà, donc la spéléo plongée, c'est la spéléo. C'est-à-dire, il y a de la plongée, il y a la spéléo. La spéléo plongée, c'est, on va dire, une continuation. Donc, j'ai pas mal porté de bouteilles pour les plongeurs. Mais non, c'est un investissement en temps. Bon, financier aussi, mais et puis un investissement psychologique qui est quand même assez fort. Donc voilà, un spéléo, le moindre incident peut avoir des, voilà, peut être devenir très très grave. Hein. Voilà, il y a la notion de danger en fait. Un spéléo, on l'a en fait, cette notion de risque. Et moi, c'est souvent ce que j'évoque. En fait, la spéléo, c'est moins dangereux que le ping-pong. Voilà. Parce qu'effectivement, en ping-pong, il y a pas mal de crises cardiaques. Mais statistiquement, la grosse différence par rapport à beaucoup d'activités, c'est qu'en spéléo, on a une conscience du risque. C'est-à-dire qu'on évite le risque. Donc là, sur ce type d'expédition en particulier, on n'a pas le droit à se faire à l'accident. Donc tout est vraiment mesuré. On est dans un milieu hostile. Voilà, il y a un certain danger. Mais le fait d'avoir cette conscience du risque relativise les choses. Et ça, c'est dans les gènes des spéléos. Et je vois que pour pratiquer d'autres activités, ce n'est pas le cas ailleurs. C'est-à-dire que voilà, l'équitation, c'est beaucoup plus dangereux que la spéléo. Voilà, je fais du vélo. Et je considère que je prends plus de risques en allant faire du vélo qu'en allant faire la spéléo. Ce n'est pas ce que les gens ont l'image, souvent parce que voilà, dès qu'il y a un accident, il y a des accidents qui arrivent, ils sont souvent médiatisés. Et on peut avoir, si on se fait une entorse au fond de certaines cavités, et l'autoise comme ailleurs, eh bien, il faut parfois déclencher un secours qui peut être long, il peut mobiliser une centaine de personnes. Voilà, donc c'est ce qui fait que dans l'inconscient collectif, effectivement, c'est un milieu dangereux, mais voilà, il y a un danger, mais ce n'est pas dangereux.
Et justement, là, avant de partir, avant de retourner en Patagonie, à Madre de Dios, vous vous préparez physiquement ? Il y a une préparation physique avant de partir ? Ah, je vois sourire, hein ? Chers auditeurs, vous ne voyez pas Joël sourire.
Non, mais je pense à chaque fois d'Abouville, je crois, qui avait traversé l'Atlantique à la rame, et on lui avait posé la question, vous avez beaucoup ramé avant ? Il dit, mais vous plaisantez ou quoi ? Je vais déjà ramer pendant un moment. Je dis ça, j'exagère un peu, je me prépare. Déjà, il faut déjà préparer le matériel, son matériel à soi, penser par rapport au matériel collectif. Franchement, je ne fais pas de préparation spécifique. On va partir pendant 5 semaines. Il y a plein de choses à faire. C'est faut être en condition normale, quoi. C'est plutôt c'est une activité de fond en fait, d'endurance. Ça se rapproche. C'est une activité de montagne, hein, même si on peut la pratiquer sur des régions comme dans le Lot ou en Charente ou ailleurs. Mais c'est une activité de montagne. La spéléo, c'est pas un sport parce qu'il n'y a pas de compétition. Ça peut être très physique. Et ce qui m'a surpris, franchement, parce qu'on part avec des il y a des gens qui sont vraiment chevronnés, c'est l'attention que porte chacun sur les autres, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Donc, s'il y en a un qui a un peu plus de mal, c'est pas grave, en fait. Voilà, on déplace les charges, on porte un peu plus pour l'autre, ou réciproquement. Mais l'idée, on n'y va pas pour faire du sport. Le sport, c'est vraiment le moyen, c'est vraiment pas le but.
Et avec la Covid, en ce moment, c'est compliqué, là, de préparer une expédition scientifique, là, à l'autre bout du monde.
Alors, tout est compliqué pour tout le monde. Donc, voilà, c'est une pandémie, chacun le vit à son niveau de façon différente. Ce qui est sûr, c'est qu'une expédition comme ça, et c'est sûr qu'il nous faut notre passe sanitaire. L'expédition devait avoir lieu en 2021, elle n'a pas pu avoir lieu. Aujourd'hui, on sait que depuis quelques jours, qu'effectivement, elle va se maintenir. Encore la semaine dernière, il y avait des incertitudes. Donc là, c'est des relations. Donc la confirmation s'est faite via l'ambassade française au Chili. C'est un pays qui peut être touché. Ils ne sont pas touchés par le variant indien. Donc forcément, ils ont l'inquiétude que des étrangers l'amènent. Donc nous, on ne veut pas l'amener non plus. La Covid, forcément, ça change un peu la donne, même si nous, on va être dans un endroit isolé, tout seul. Donc une fois qu'on est sur place, on n'attrape rien là-bas, en fait. On n'attrape même pas un rhume, parce qu'en fait, il n'y a personne. Donc il n'y a rien qui traîne, en fait. Même s'il fait très, très mauvais, on n'a pas un seul rhume. C'est très sain, en fait. S'il y a quelque chose, c'est parce que c'est un de nous qui l'a amené. Donc le transport, ça, c'est long. Hein, donc on a de l'avion, on a déjà plus de 30 heures de bateau. Donc je pense que si quelqu'un a quelque chose, on se suit. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour éviter qu'on l'ait et qu'on contamine aussi bien sûr les gens de là-bas. Quoi. Ouais.
on va revenir un peu au Lot. Juste, j'avais une question. J'avais vraiment envie de vous poser cette question. On dit que le Lot, c'est une terre de spéléologie.
Oui,
c'est vrai.
C'est vrai.
La capitale française de la spéléologie. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus.
Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est la mecque de la plongée spéléo. Là, effectivement, il se trouve que, voilà, des vallées, l'Aude, Dordogne, Célé, on a les gros spots européens de la plongée. Il y a trois spots, voilà, les trois gros spots du monde, c'est la Floride, le Yucatan au Mexique et le Quercy-Périgord. Non, par contre, on a. Mais le Lot, c'est 80% du territoire lotois qui est en zone calcaire, en zone karstique. Donc, voilà, du coup, on a pas mal de grottes. La géologie fait que on a une spécificité du COS, en fait, où il y a des grottes. C'est aussi qu'on a le Limargue en proximité. On a les eaux qui. Des petits ruisseaux qui vont aller vers le COS et se perdre dans le COS, ce qui fait qu'on a des concentrations d'eau au même endroit, donc ça crée une qu'on appelle une perte, une rivière souterraine qui va ressortir dans les vallées au niveau de résurgence. C'est pour ça qu'on a ces fameux siphons très connus, parce qu'on a ces galeries noyées en aval, mais on a aussi toutes ces pertes, on a de très très belles rivières souterraines. C'est cette configuration géologique qui fait qu'on a des réseaux comme le gouffre de Padirac ou le réseau de louches souterraines, Vitarel en particulier, ou le Bré là, qui est sous le CEA, avec des résurgences qui ressortent aux côtés de Rocamadour. Mais tout le Causse de Limogne aussi, on a des rivières qui ont été découvertes relativement récemment, et il y a encore de très belles découvertes qui se font. Donc on a de très très belles rivières. Ensuite, chez nous, il ne fait pas froid, c'est-à-dire que ce n'est pas la montagne, dont les cavités font 12-14 degrés toute l'année, donc il fait chaud l'hiver et il fait frais l'été. On a beaucoup de concrétion, donc c'est joli. Les cavités sont. On a un panel de cavités avec pas mal de cavités faciles, ce qui explique qu'on a des très jeunes à des gens qui ont un certain âge. Voilà, moi, je fais toujours la spéléo avec des gens avec qui j'ai commencé il y a 30 ans, donc forcément, ils ont un peu plus. Et donc tout ça que fait effectivement le Quercy est à la fois une. On peut se faire plaisir et il y en a pour tous les goûts. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Voilà, on peut aller dans les Pyrénées où il y a des grands réseaux, mais quand il faut commencer à marcher 3-4 heures, certaines cavités, il faut y aller que quand il y a la neige, parce que sinon, dessous, il y a l'eau qui dévale. Voilà, ou que des trous étroits. Enfin, il y a un peu tout. C'est vrai que sur le Quercy, on a. Si, vraiment, c'est une. Et ça explique qu'on a voilà, une dizaine de clubs. Il y a 200 spéléos, mais on est aussi un territoire d'accueil de nos amis corréziens, mais aussi plus au nord, les Tourangeaux, les Charentais, ils viennent souvent dans le Quercy, les Périgordins aussi. Voilà, on a pas mal de gens qui viennent. Et puis, on peut aussi aller se promener pas très loin, hein, le Causse corrézien, le Périgord, les Grands Causses qui sont vraiment à côté. Donc, il y a plein de choses. Donc, pour la spéléo, il y a à faire et vous pourrez, si vous voulez, prendre contact à un des clubs lotois.
Ah oui. Allez, pour terminer, je vous pose quelques questions courtes, avec des réponses courtes.
Ah, je vais essayer.
votre livre du moment.
Ah, le livre du moment.
Ah.
Je relis Magellan, qui est un livre qui est extraordinaire. Donc voilà, quand on va en Papouasie, quand on va en Patagonie, Magellan a son empreinte, et c'est un livre, une biographie qui est vraiment... très courte, très efficace, plus courte que ma réponse, mais voilà, je vous conseille ce livre.
C'est vrai, elle n'a pas été très courte, hein. Mais bon. Votre plat préféré?
La mique.
Ah, ça, bah, c'est bien lotois et de gourdon. Hein. Ah là là, si je vous dis spéléologie.
Alors, non, là, la course va être un peu compliquée, donc c'est...
Un mot, il n'y a pas un mot qui vous vient comme ça?
Ah, c'est très personnel. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est très profond, en fait. Voilà.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Oui,
c'est l'intime.
Oui. Ouais. Ouais. Votre vin préféré, si vous buvez du vin, bien sûr.
Je vais faire la publicité, en fait. Je vous conseille le vin de Dôme. Alors, je reviens aussi sur mes origines, mais voilà, le vin de Dôme.
Il y a du vin à Dôme, maintenant?
Tout à fait.
Ah ouais. Ah ouais. Ah tiens.
On a recréé...
Ils ont refait une vigne, enfin des vignes, non?
Voilà,
c'est
ils,
ça
ont, hein, ils ont recréé, ouais, ouais, un projet de territoire très intéressant, ah, en, ouais, recréant... Et j'espère ce qui va se passer sur le Fijacois. Et,
ben,
et donc,
oui,
même le paysage du début du 19e se redessine sur certains territoires.
D'accord.
Et voilà, non, c'est intéressant comme projet.
Si je vous dis Madre de Dios.
Mais Madre de Dios, ça, voilà, je sens le vent qui me déloge les lentilles des yeux, la pluie, et pas mal, beaucoup d'émotions, ouais, beaucoup d'émotions.
Et passe-temps préféré, votre passe-temps préféré ? Bon, pas la spéléo, hein.
Je sais, le passe-temps, en fait,
quand on passe passe-temps, ou un loisir, si vous préférez, je ne sais pas comment le dire.
Ah, je sais, j'ai toujours dû...
Vous avez toujours quelque chose à faire.
C'est comme si vous m'aviez demandé ma couleur préférée, ce que me demandent souvent les enfants, je réponds, mais pourquoi je privilégie une couleur par rapport à l'autre ? J'ai toujours du mal, en fait. Et c'est un peu cette soif, un peu d'universalité, ce qui fait que non, je n'ai pas de... Ni même, en fait, voilà, même pas de plat préféré. Enfin, c'est peut-être, c'est pas un non-choix, c'est qu'en fait, c'est la peur de ne pas profiter de plein de choses qui sont à ne pas rater.
Bien, et bien, merci beaucoup, Joël. Donc, on vous donne rendez-vous, vous nous donnez rendez-vous jeudi et vendredi. Donc, jeudi soir, 23 à 20h30 à l'Astrolabe. Et le même horaire, vendredi 24 à la Strada de Casseville. Et moi, je vous souhaite une bon voyage à Madre de Dios, une belle expédition. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.